hachée voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage.
Il était une fois, y a pas si longtemps, des renards fatigués, mais pas si méchants, fatigués de voir les corbeaux prendre les décisions et courir pour pouvoir nourrir tous leurs cochons.
Vous écoutez RFI, les 7h à Paris et Davos, 6h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et Julien Coquelrohem pour le journal. Bonjour Julien.
Bonjour Andréane. À la une, la Syrie et un énième cessez-le-feu annoncé hier soir entre Damas et les Kurdes des forces démocratiques syriennes. L'avancée des troupes du gouvernement, la reprise en main d'une partie du nord-est du pays suscite l'inquiétude autour des prisons de djihadistes que les Kurdes contrôlaient jusqu'ici. L'actualité, c'est aussi les Européens face aux menaces de Donald Trump qui arrive aujourd'hui à Davos. Emmanuel Macron qui s'exprimait hier promet de tenir tête aux intimidateurs. À la une aussi, la fin de la guerre en Ukraine qui semble bien loin, y compris côté russe. Nous sommes en Sibérie. Et puis le mage du Kremlin au cinéma aujourd'hui en France. 30 ans d'histoire mondiale du point de vue russe. Et un Jude Law surprenant dans le costume de Vladimir Poutine.
Cette trêve-là peut-elle tenir après l'échec des précédentes ?
En Syrie, un nouveau cessez-le-feu signé hier soir entre Damas et les combattants kurdes des forces démocratiques syriennes. Les deux précédents avaient été suivis quasi immédiatement d'affrontements, alors que depuis deux semaines, le pouvoir syrien a envoyé ses troupes dans le nord-est pour reprendre en main les provinces que les Kurdes contrôlaient jusqu'ici. Après avoir été délogés d'Alep la semaine dernière, puis des provinces de Raqqa et d'Erezor, les FDS se sont repliés au cœur de leur zone, à Asaké. Et les affrontements de ces derniers jours suscitent l'inquiétude autour des prisons que les Kurdes gardaient jusqu'ici, celles où sont incarcérés les djihadistes du groupe État islamique ou leurs proches. C'est ainsi que la prison de Sini à Shadad a été vidée hier de ses prisonniers. Sur place, notre correspondante Manon Chaplin.
Par dizaines, les tenues oranges des prisonniers de l'organisation État islamique jonchent le sol de l'entrée. À terre, des cadenas découpés, tout autour un important dispositif de sécurité. Les soldats de l'armée accusent les FDS d'avoir ouvert les portes de la prison avant de la quitter.
Comme vous pouvez le voir, les portes ont été ouvertes volontairement et il n'y a aucune trace de casse.
Difficile de vérifier l'exactitude des faits qui se sont déroulés ici. Les FDS, eux, accusent les forces gouvernementales d'avoir lancé des assauts répétés, la coalition internationale anti-djihadiste de les avoir abandonnés. Dans la foulée, les autorités ont annoncé avoir récupéré 80 des 120 prisonniers qui s'étaient échappés. Donald Trump, lui, a affirmé avoir contribué à empêcher l'évasion des djihadistes européens. Dans la région, des milliers d'ex-combattants et leurs familles sont retenus dans les prisons et les camps. Les FDS ont annoncé avoir été contraintes de se retirer de celui d'Al-Hol, qui renferme près de 20 000 femmes et enfants d'anciens combattants. La sécurisation de ces établissements sera pour la coalition internationale un enjeu primordial. Hier, l'émissaire américain en Syrie a estimé que la mission des combattants kurdes était finie, que le nouveau pouvoir syrien était désormais capable de contrôler les prisons de l'EI. Manon Chaplin, à Shadadeh, RFI.
Et dans le cadre du cessez-le-feu annoncé hier soir, les autorités de Damas donnent désormais 4 jours aux forces démocratiques syriennes pour proposer un plan d'intégration à l'état de la province de Asaké où ils se sont repliés.
Dans la région, une escalade persistante est totalement inacceptable.
Les propos d'Antonio Guterres pour dénoncer hier la démolition sans avertissement par des bulldozers israéliens à Jérusalem-Est des bâtiments de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, un cran de plus franchi dans un contexte de violence croissante, notamment en Cisjordanie occupée. On évoque souvent les attaques de colons israéliens contre des palestiniens en forte augmentation et RFI vous fait entendre ce matin un témoignage pour prendre la mesure de leur brutalité, celui d'une Française universitaire venue en Cisjordanie occupée pour protéger les Palestiniens. Elle a été blessée il y a quelques jours, Frédéric Misselin.
Alban Buriel se déplace doucement car elle a mal. Elle montre la très large ecchymose sur son dos.
Alors, je me suis fait frapper par probablement des colons qui ont incendié l'endroit où je me trouvais et qui nous ont frappé une vingtaine de coups de baramine.
Cette chercheuse française, habituée des terrains de conflit, est arrivée à Jérusalem il y a une dizaine de jours avec l'association israélienne Torah Tzedek. Elle était volontaire pour protéger les villageois palestiniens.
La présence protectrice vise de manière pacifique à pouvoir protéger les civils.
Alban est allé dormir samedi dernier dans un village bédouin en Cisjordanie occupée vers 21h. Un villageois la réveille, une vingtaine d'assaillants sont là, masqués.
Ils arrivaient à toute vitesse et j'ai vu qu'ils avaient des barres de fer et ils ont commencé à me jeter des pierres. Il y avait une voiture en face de moi. Donc je me suis mise à terre et une de ces personnes m'a directement frappée avec une barre métallique très lourde. J'étais seule en fait à ce moment-là. Une autre personne a mis le feu à la voiture contre laquelle j'étais.
Un autre volontaire américain l'a rejoint. Ils tentent tous deux de s'échapper en courant, mais les blessures d'Alban sont trop douloureuses. Les attaquants les rattrapent et frappent l'autre volontaire.
Les coups de baramine sur un corps, c'est vraiment horrible. Et il s'écrit quoi, c'était vraiment... Il s'est fait frapper pareil 15-20 fois. J'ai l'impression que c'est assez maîtrisé pour faire sans donner la mort. Effectivement, cette violence, elle semble systémique.
Un Palestinien est aussi grièvement blessé. Traumatisé, Alban a porté plainte en Israël et repris un avion pour la France. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
RFI 7h05 à Paris et Davos où Donald Trump arrive aujourd'hui en fanfare.
Le président américain débarque au Forum économique mondial alors qu'il accentue la pression sur l'Europe pour faire main basse. Sur le Groenland, il n'exclut toujours pas d'employer la force. Vous le découvrirez, a-t-il répondu hier à la question d'un journaliste lui demandant jusqu'où il serait prêt à aller sur ce dossier. Une menace en toile de fond des premiers discours de dirigeants hier à Davos. Notamment celui d'Emmanuel Macron, reparti des Alpes suisses sans attendre Donald Trump, Valérie Gasse.
Faire de l'anti-Trump, c'est ce qu'Emmanuel Macron a tenté à Davos. Quand le président américain affirme qu'assurer la paix se fait par la force, Emmanuel Macron répond:
il ne faut pas céder à la loi du plus fort ou à une technique d'intimidation.
Face aux outrances du locataire de la Maison-Blanche, Emmanuel Macron a joué la carte du calme, mais aussi de la clarté du discours et des objectifs.
Nous, on a un allié, un ami, qui est le Danemark. Quand il est attaqué, c'est normal qu'on soit là. On est dans un cadre totalement transparent, contre personne, et on ne doit pas être agressé ou attaqué quand on fait ça.
Même si la publication sur son réseau social par Donald Trump d'un message qu'Emmanuel Macron lui avait envoyé a visiblement irrité le chef de l'État. Pas question de favoriser l'escalade, même verbale, mais pas question non plus de donner l'impression de craindre les menaces distillées quotidiennement par Donald Trump. Cette posture avait un double objectif, montrer au président américain qui rêve d'annexer le Groenland que les Européens ne se laisseront pas faire. Emmanuel Macron sera jeudi à Bruxelles pour préparer la riposte, mais aussi parler aux chefs d'entreprise présents à Davos pour les convaincre que l'Europe et la France sont des terres d'accueil, car les règles du jeu sont les règles du droit, pas celles de la brutalité. Bref, rassurer et amadouer les investisseurs. Valérie Gasse, Davos, RFI.
Et on apprend à l'instant via l'Elysée que la France demande un exercice de l'OTAN au Groenland et se dit prête à y contribuer.
Davos où Volodymyr Zelensky ne se rendra finalement pas.
Le président ukrainien l'a annoncé hier, préférant rester à Kiev pour faire face aux conséquences des frappes russes de la nuit dernière. Plus d'un million d'habitants privés d'électricité. Zelensky s'est inquiété de voir les tensions autour du Groenland détourner l'attention internationale de son pays. La promesse de Donald Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures n'a toujours pas abouti. Le conflit entrera dans un mois dans sa cinquième année et nous sommes ce matin côté russe. Dans la région d'Irkoutsk, en Sibérie, frappée en juin dernier par l'Ukraine et où de nombreux hommes auraient été envoyés se battre sur le front. Ici aussi, la fin des combats semble bien loin. Reportage Anissa El-Jabri.
Moins 35 le matin, moins 25 en journée. Le sol qui glisse parfois, la neige qui craque sous les pas, l'hiver sibérien à Irkoutsk. C'est le quatrième depuis le début de ce qu'on appelle toujours ici une opération spéciale et il marque clairement une déception sur les promesses de Donald Trump sur l'arrêt des combats.
J'aurais aimé le croire, mais ces promesses ont été faites depuis tellement longtemps déjà.
Le regard sur le locataire de la Maison Blanche s'est aussi durci depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro.
Il y avait de l'espoir, mais depuis les événements au Venezuela, je pense qu'avec lui, ça ne va pas du tout. Je suis outré. Comment est-il possible d'arriver tranquillement dans un pays, d'enlever le président et sa femme et les emmener dans votre pays?
Ici, la guerre a un poids particulier. Chacun connaît quelqu'un ou un proche qui connaît quelqu'un parti se battre et souvent en a payé le tribut. Pressé, un homme jette par-dessus son épaule ces mots.
Les gars, il meurt. Combien d'amis ai-je enterré? Beaucoup.
Parmi ceux qui sont revenus, souvent un soutien total au but du Kremlin.
Si cela ne tenait qu'à moi, je mettrais notre drapeau au centre même de l'Ukraine. Quand on commence un travail, il doit être terminé jusqu'au bout et terminé correctement.
Tout cela, dit-on souvent, prendra du temps.
J'ai le sentiment que ça va durer au moins jusqu'à la fin de l'année. Je crois que les pays occidentaux ne cesseront pas leur soutien à la partie ukrainienne de ce conflit avant très longtemps.
Anicel Jabri, Irkoutsk, RFI.
Et sur RFI, l'actualité ce matin, Julien, c'est aussi Maurice et la réaction du gouvernement après les propos de Donald Trump.
Encore lui, le président américain qui, pour le premier anniversaire de son retour au pouvoir, s'est livré hier à un florilège de déclarations à l'emporte-pièce, notamment celle-ci. Il a qualifié le traité entre le Royaume-Uni et Maurice sur la restitution de l'archipel des Chagos de « bêtise monumentale ». Alors que le Parlement britannique examine ce texte, la volte-face américaine suscite dans le pays inquiétude et indignation, Patrick Hilbert.
Le gouvernement mauricien se veut ferme mais mesuré. Pour lui rappelle que l'accord sur les Chagos a été négocié et signé exclusivement entre le Royaume-Uni et la République de Maurice, une précision qui vise à relativiser la portée politique du message publié par Donald Trump. Maurice attend désormais que Londres aille au bout du processus législatif en cours à la Chambre des communes afin de permettre la ratification du traité. Le gouvernement se félicite d'ailleurs des premières déclarations britanniques qui confirment la volonté de ratifier l'accord. Pour lui, la souveraineté mauricienne sur l'archipel ne fait plus débat. Elle est reconnue sans ambiguïté par le droit international et doit désormais se traduire concrètement dans les plus brefs délais. Du côté de la classe politique mauricienne, Kusha Lobin, député de la majorité, dit sa stupeur et son inquiétude face à l'évolution de la géopolitique mondiale. Olivier Bancoult, leader du groupe réfugié Chagos, dénonce une position incompréhensible de Donald Trump. Il réaffirme sa confiance dans une ratification britannique, jugée essentielle pour réparer une injustice vieille de plus de 60 ans et permettre le retour des Chagossiens sur leurs terres. Patrick Hilbert, pour lui, RFI.
Et puis Julien, après un journal où on a parlé de Davos, on a parlé de la guerre en Ukraine, on ne peut pas vraiment compter sur ce film pour nous changer les idées.
Le mage du Kremlin sort aujourd'hui sur les écrans français, le titre du nouveau film d'Olivier Assayas qui adapte un roman de Giuliano da Empoli. Il raconte 30 ans d'histoire de la Russie à travers le portrait du plus proche conseiller de Vladimir Poutine, un personnage fictif, mais inspiré par de véritables figures du régime, Sophie Torlotin.
Vadim Baranov était un metteur en scène visionnaire.
Vadim Baranov est un homme de l'ombre, venu du théâtre postmoderne, passé par la télévision et proche des oligarques des années 1990. C'est lui qui va aider Vladimir Poutine à conquérir le pouvoir.
Jamais, mais pleure encore une fois, oui, pleure, oh, pleure, oiseau, oui. Vous cherchez un emploi, une orientation professionnelle, une formation? Rendez-vous les 23 et 24 janvier au Salon des métiers de l'emploi, de l'orientation et des formations supérieures organisé par l'agglomération Évreux Porte de Normandie avec le soutien financier de la CCI. À la Halle des Expositions d'Évreux, 150 organismes et établissements d'enseignement supérieur présenteront leurs formations et des employeurs leurs postes à pourvoir. Sur place également, démonstration métier, tests d'orientation et conseils pour votre voie professionnelle. Venez avec votre CV. Plus d'infos sur evreuxportedenormandie.fr.
J'ai un petit problème, gros. Je sais plus quoi écrire. Je crois bien que j'ai plus rien à dire. Ouais, j'ai plus rien à dire. J'aurais pu faire encore un de ces morceaux avec des jeux de mots genre village picole. J'aurais pu faire des jeux de mots sur l'alcool, mais faut que je te dise la vérité. Je me suis dit lève tomber. Je risquerais de me répéter, de faire bis bis et après je pisse trop. J'en ai déjà fait trop. Et gros c'est gros. Seule la grippe paye. Aucun remords pour les sous l'eau. Chasser le naturel, il revient au boulot. Ouais, je garde jamais mon pelle contrôle. C'est rien de le dire. Uni pour le meilleur et pour le pire, je suis le god of boire, je fais les choses bien. J'ai tellement chardonné pour toute mon œuvre, je mérite 20 sur 20. Toutes ces phases, j'en ai marre, tu n'imagines bien qu'on m'invitera pas demain au garden party. Je m'étais promis de plus faire ce genre de titre. J'aurais pu te dire que je veux bien boire de tout, que je suis cosmopolite. Quand je viderai mon cocktail, je resterai sur la paille et je finirai sous l'éponge et siffler la rivière Sky. Me fais la vodka du diable, la parole est à la défonce. Toutes ces phases que j'aurais pu écrire, mais j'ai plus rien à dire, ouais j'ai plus rien à dire. J'aurais pu faire comme tout le monde, balancer du rap technique et des couplets où je rappe vite, du genre qui retourne le public. J'aurais pu faire du rap technique qui tape très vite, des rimes très bêtes, les puristes, du boom bap crédit, des barres qui pètent comme les braises crépites. Même mec, je préfère les grosses pépettes, c'est pas dans le rap, je veux des vraies pépites. Des rimes de merde qui se répètent, j'évite, ouais c'est vite fait. Je laisse les kids kicker ce premier beat prêt. Je suis un geek et un type vrai, authentique, ouais j'ai du beat, mais je balance et je valide que les hits frais. J'aurais pu faire du multisyllabique sur 11 syllabes, perdu vu qu'il n'y a vite qu'une tromperie de base. Frère, tu suces 10 milliards de beats, vu ton style naze. Ce n'est qu'une illissime pratique du compilage. Peu importe si je fais des erreurs, T-Bex, on vient pour foutre le feu à l'ancienne, Silex. On a les dents longues et des grosses queues, T-Rex. Et on va te casser tes lunettes, Skrillex. J'aurais pu faire ce genre de rap tech. J'aurais pu faire toutes ces rimes hashtag. Mais je sais plus quoi écrire. Je crois bien que j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. J'aurais pu te parler du monde. Mais je crois que tout va bien en ce moment. J'aurais pas su de quoi te parler. Et puis ça va de mieux en mieux, non? Je crois qu'on a évité le pire. Et je crois bien qu'il y a plus rien à dire. Ouais, j'ai plus rien à dire. La 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 la
Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre.
Principe Actif, le mix des cultures.
C'est celui de
Principe Actif. Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Bon, vous voulez envoyer un peu de musique, cher ami ?